Interview. 100%
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nous allons parler rivière avec Christelle Fermont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du SMRD, Syndicat Mixte de la Rivière Drôme.
Oui.
Animatrice du SAGE.
Oui. Schéma d'aménagement et gestion des eaux.
Oui. Même de la CLÉ, la Commission locale de l'eau.
De l'eau.
Et nous allons parler du SPAR.
Oui, là c'est un acronyme anglais, donc je ne sais pas si on va le citer.
On va comprendre ce que c'est. Cette commission locale de l'eau, nous avions eu le plaisir avec la radio de couvrir il y a quelques temps justement tout ce qui concernait un petit peu le SMRD, ses grandes orientations suite au bassin versant là, qu'on appelait de Rhône-Méditerranée. Peut-être nos auditrices, auditeurs, resituer un petit peu ce que c'est le SMRD, sa mission.
La mission du SMRD, en fait, on a deux grandes missions. Celle qui existe depuis plusieurs années, depuis 2007, c'est de s'occuper des milieux aquatiques, donc tout ce qui est gestion des rivières, donc à la fois au niveau des études sur tout le bassin versant, mais aussi en termes de travaux, en particulier, jusque-là, on faisait beaucoup l'entretien de la végétation des berges, donc tout l'entretien des arbres et des berges sur tous les affluents de la Drôme et la Drôme elle-même. Et puis, on a aussi donc l'animation de la commission locale de l'eau et la rédaction du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc ça, c'est le Parlement de l'eau, qui est une liste de membres donc élus, usagers et services de l'État, qui est issu d'un arrêté préfectoral. Et nous, on en fait le portage, donc l'animation avec des agents et du budget. Donc ça, c'est les grandes missions qu'on a depuis 2007. Et depuis le début de l'année 2018, on a une nouvelle compétence qui nous a été transférée par les communautés de communes de la vallée, qui est la gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations, donc GEMAPI. Voilà.
Cette commission locale de l'eau, donc, qui rassemble des élus et des usagers finalement, vient fixer un certain nombre de règles suite notamment aux mesures, études que vous avez pu produire sur l'ensemble des rivières qui servent ce bassin drômois.
C'est ça. En fait, ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, il date de 93. Donc, depuis cette période-là, on suit l'évolution des actions qu'on mène. On fait des états des lieux tous les 6 ans. Et en fonction, on réadapte les enjeux et les objectifs sur le bassin versant dans tous les domaines, que ce soit la biodiversité, l'eau potable, l'irrigation, la qualité de l'eau. On essaye de gérer, de donner des pistes pour tous les porteurs de projets de toutes les thématiques liées à l'eau.
Alors pour être très concret, l'objectif ce serait quoi? De garder un débit constant par exemple sur la rivière Drôme avec la biodiversité qui y va, et donc on va reprendre comme ça l'intégralité des petits, même des petits ruisseaux.
On est dans une rivière naturelle et qui n'a plus de barrage, donc on peut s'en féliciter. Par contre, du coup, c'est vrai que quand il y a des crues, on a peu de moyens de se protéger, et en été, quand il n'y a plus d'eau, on a des soucis de partage de la ressource. Donc on a étudié en fait qu'est-ce qui est nécessaire pour les milieux. Donc les milieux, aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a peu de temps, étaient pas trop connus et considérés en matière de répartition de l'eau. Donc maintenant c'est bien connu, on sait de combien d'eau a besoin un milieu et les différents milieux du bassin pour vivre, et on fait avec une nouvelle part de gâteau en considérant le milieu comme un vrai usager. Donc ça nous donne après, par déduction, ce que l'on peut utiliser pour les différents usages humains.
Cette utilisation est plutôt bien gérée?
Disons que depuis 93, il y a quand même eu beaucoup de progrès en termes de gestion quantitative. Il y a eu beaucoup de travaux de fait en matière irrigation, justement. qui ont accepté déjà de ne plus augmenter leurs besoins en eau sur le bassin versant et qui ont fait beaucoup de projets pour essayer de ne plus pomper l'eau dans la rivière Drôme et ses affluents. Bon, est-ce que c'est suffisant? Le problème, c'est que maintenant, il y a le volet eau potable qui est un peu compliqué à gérer avec l'urbanisation, avec des réseaux vieillissants, avec méconnaissance sur beaucoup de communes des quantités même utilisées pour l'eau potable. Et puis, on voit déjà un peu les effets d'un réchauffement climatique sur la vallée, avec des débits, même au niveau de Saillant, où il y a assez peu de prélèvements encore. On voit que le débit de la Drôme passe régulièrement, de plus en plus souvent, sous les débits qu'on pourrait se fixer comme objectif pour les milieux. Donc c'est assez préoccupant et du coup la gestion quantitative, les débits d'eau, continuent à intéresser la CLÉ pour encore plusieurs années.
Avec quelque chose d'assez particulier qu'on a vécu aussi cette année, c'est-à-dire que quand il pleuvait, la Drôme gonflait très très vite, mais pour pas très longtemps.
Ben
On
oui.
stocke plus là en ce moment, c'est ça aussi?
Ben, ça stocke pas trop et puis c'est des pluies qui sont assez concentrées. Enfin, il a quasiment pas plu cet été, hein. Depuis le printemps, il a quasiment pas plu. Et du coup, non, ça se stocke pas, ça part aussi vite. L'année dernière, on a eu 70 jours d'ASEC sur Livron-l'Auriol. Ça s'était pas vu depuis 2006. C'était, oui, c'est des années qui sont assez difficiles, oui.
Et une autre question annexe, on entendait dire à un moment donné la possibilité de retirer un certain nombre de cours d'eau, des cours d'eau officiels, hein, des petits rioux, ruisseaux, qui pouvaient disparaître au profit d'une expansion agricole notamment.
Ça, c'est une démarche qui a été menée au niveau départemental par l'État d'essayer de lister tous les cours d'eau qui seraient concernés par les bordures de bandes non agricoles, en fait, de bandes enherbées le long des cours d'eau. Il a fallu qu'on fasse le tri entre les ruisseaux qui seraient concernés par ce type de mesure, ceux qui seraient concernés par la loi sur l'eau. Il y a eu un gros travail de fait d'inventaire, en effet, qui s'est achevé et maintenant tous les résultats sont accessibles sur Internet. Donc vous allez sur le site de l'État et vous savez si votre cours d'eau a été considéré ou pas au titre de la loi sur l'eau et au titre, agricole.
Et c'est bien ou pas, selon vous, cet inventaire qui a été fait et ces choix qui ont été arbitrés?
Ben, je pense que c'est bien parce que aujourd'hui, quand on regarde une carte IGN, il y a des pointillés, il y a des tre-pleins, il y a des cours d'eau nommés, d'autres qui sont pas nommés. Là, ce travail-là, il s'est fait sur plusieurs mois et l'intérêt, ça a été de monopoliser aussi les agriculteurs, les usagers, le syndicat de rivière a participé. Donc, on a pu vraiment argumenter sur qu'est-ce qui nécessitait ou pas d'avoir une attention particulière. Donc, je pense que le résultat, on peut toujours faire des remarques dessus, mais en tous les cas, il a été fait en concertation.
On passe au projet SPAR. Alors donc cet acronyme anglo-saxon dont on ne saura pas quoi dire, c'était quoi avant tout? Déjà une bonne période d'études aussi pour vous?
Alors on est carrément dans le concret parce que c'est donc un financement Interreg européen. Donc c'est pour ça qu'on est en anglais parce qu'en fait on a pu faire un partenariat avec plusieurs pays européens autour de l'arc alpin. Donc les Italiens, les Suisses, les Autrichiens, les Slovènes. On s'est réunis en fait autour d'un même projet qui était de faire participer la population, nos populations de chacun des bassins versants de ces pays en matière de gestion de l'eau. Donc c'était un vrai projet de démarche participative autour de la gestion de l'eau.
Avec le point commun de tout se déverser dans la Méditerranée.
C'est ça. Donc le point commun, c'est l'arc alpin. Donc on est tous ces petits bassins versants sont des bassins versants de l'arc alpin. On ne se jette pas tous dans la Méditerranée parce qu'il y en a qui se jettent dans le Danube, d'autres à plusieurs endroits. Mais en tous les cas, on est tous autour de l'arc alpin et on a tous utilisé une même méthode développée par l'IRSTEA, qui est un organisme de recherche français.
Et pourquoi vous êtes mis ensemble sur l'arc alpin? Parce que les points communs notamment avec les montagnes ou...
Ben, c'est des rivières qui ont des points communs en termes, oui, d'hydrologie, les usages un peu aussi, quoique les autres rivières ont beaucoup plus de barrages que la nôtre et ont beaucoup plus de liens avec l'hydroélectricité que la rivière Drôme. Et puis surtout, c'est ben, des démarches européennes pour faire travailler les pays autour de la CAPIN ensemble. Donc c'était le point de départ, c'était travailler avec des pays autour de l'arc alpin.
C'est quoi l'avantage de travailler avec d'autres pays, avec des étrangers?
C'est de parler anglais.
Bon.
Sans qu'il y ait d'anglais autour de la table, c'est rassurant.
Oh, c'est pas mal.
Ça remet en confiance.
Bravo.
Mais non, bah, c'est de pouvoir partager des expériences. On a pu, à travers ce projet, tous les 6 mois, se réunir dans l'un des pays de ce projet et du coup faire du terrain, comparer nos différentes expériences, voir en matière de démarches participatives qu'est-ce qui marche dans certains pays, pas d'autres, quels ont été pour certains les freins politiques ou pas, ou au contraire les appuis politiques. Et du coup, on se retrouve avec des expériences assez différentes qu'il est intéressant de partager. Et pour la France, c'est la Drôme qui a été retenue et uniquement la rivière Drôme.
C'est bien alors.
Oui, c'est chouette.
Alors qu'est-ce qu'on devrait restituer alors sur ce Spar, Christelle?
Eh bien, sur ce Spar, on a 2 ans de démarches participatives donc sur la vallée de la Drôme qui ont eu lieu. On a eu plus de 62 temps participatifs avec les citoyens.
C'est-à-dire des
Ça
réunions comme ça, publiques et...
Ben, un peu tout, des réunions, des événements. On a ouvert la commission locale de l'eau à des citoyens aussi. Donc vraiment tout type de temps participatif. Ça en fait 62 sur 2 ans. 340 participants différents, donc qui parfois ont pu participer plusieurs fois. Donc quand on dit 340 participants, ça va d'une personne qui a répondu à un questionnaire ou participer à une animation jusqu'à des citoyens qui ont passé plusieurs dizaines de jours à travailler à nos côtés.
Pour ces citoyens, par exemple, comment on pourrait décrire leur profil?
Ah ben, en fait, l'idée c'était d'ouvrir à toute personne volontaire. Donc on n'est pas allé chercher des gens, c'est les gens qui sont venus à nous. Donc on va dire qu'on a essayé d'avoir une représentation de tous les types de citoyens de la vallée. On y arrive sur certains aspects, la répartition homme-femme par exemple, la répartition amont-aval aussi, c'est pas trop trop mal. Par contre, ben, on peut dire qu'on a quand même un peu plus de gens retraités que la moyenne sur le bassin. Et puis on n'a pas pu toucher, hélas, toutes les classes socio-professionnelles. Voilà, donc ça peut être un appel.
Mais avec quelle idée viennent-ils? Une conscience écologique, un
Ah, il y
besoin,
a de
enfin quelque
tout.
chose sur l'eau particulièrement?
Bah, en fait, notre slogan, c'était Tout le monde a un lien à l'eau. Donc,
Oui.
il y a à la fois des personnes qui sont venues défendre ben, un usage. Hein. On a des personnes qui travaillent avec des micro-centrales ou qui ont juste un jardin. On a des irrigants qui, bien sûr, sont venus aussi travailler avec nous, mais aussi des citoyens qui juste ont un potager, utilisent de l'eau pour une piscine ou autre. On a vraiment tous les profils.
Et donc, ça a permis de recueillir pas mal de contributions.
Oui, ça a permis de recueillir plus de 800 contributions. Donc c'est énorme. Ça a été du coup, bah, parmi tous les pays qui ont participé à ce projet, on est celui où la participation a le plus marché. Donc on a recueilli le plus de choses sur le bassin versant de la Drôme. Du coup, fort de notre succès, bah, il faut traiter tout ça maintenant parce que la promesse qu'on a faite, et je pense que c'est ça aussi qui a permis que les gens s'impliquent à nos côtés, c'est qu'on, depuis le début, on leur a assuré qu'ils ne participeraient pas pour rien. Donc, on a eu un appui politique fort de la commission locale de l'eau, du président. Il y a eu une charte de signée entre le projet Spar et la commission locale de l'eau pour garantir aux citoyens que tout ce qu'ils allaient créer allait être utilisé par la commission locale de l'eau. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a donné confiance et c'est vraiment super. Donc on a commencé déjà la semaine dernière en commission thématique de la clé. Là, c'était le thème, c'était le quantitatif et le qualitatif, donc la quantité d'eau et la qualité sur le bassin versant. Et on a déjà commencé à travailler à une vingtaine de représentants de la clé sur les dispositions qui ont été proposées par les citoyens. Donc là, on est vraiment dans le concret. Donc,
Alors, on dirait donc qu'il y aurait deux grands thèmes, la qualité, la quantité d'eau, et à partir de là, un certain nombre de, j'allais dire, de grandes idées sont sorties et sur lesquelles vous allez pouvoir travailler comme ça par.
ah non, 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 les thèmes qui sont sortis, il y en a bien plus que ça. Là, on a commencé à travailler cela mardi dernier. Il y aura d'autres thématiques sur les milieux, sur tout ce qui est participation loisirs aussi, activités de loisirs, baignade, tout ce qui est aussi l'espace fonctionnel a aussi interrogé les gens. Vraiment, les thèmes sont très, très larges. Il n'y a pas que le quantitatif et le qualitatif qui ont.
Alors, puisqu'on a commencé à parler de ça,
Oui.
au niveau quantité, on a déjà dit qu'elle était en train de souffrir un petit peu, cette
Oui,
rivière.
oui, oui, oui.
Et au niveau qualité.
Au niveau qualité, j'ai envie de dire, des fois, ça va un petit peu avec. C'est-à-dire que dans une des périodes comme aujourd'hui, avec beaucoup moins d'eau, forcément, les polluants et les matières organiques se concentrent, donc là on pâtit aussi du manque d'eau en matière de qualité. Aujourd'hui, on a retrouvé une qualité baignade de façon générale, hein, c'est ce qu'on inscrit au SAGE, mais on sait qu'il y a encore des progrès à faire, qu'il y a encore des points noirs. Donc ça continue à travailler au niveau de la clé sur tout ce qui reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assainissement a été quasiment fait partout. Mais il y a tout le reste qui, dès qu'il y a pas beaucoup d'eau, se concentre et pose des soucis.
Donc il y a encore des zones qui sont par exemple pas raccordées des fois
Ah oui, il
aux
y en a encore, oui.
assainissements.
Oui.
Ouais. Donc ça par
Soit.
exemple une des mesures concrètes ça va être d'inciter ou de pousser les communes à équiper. Comment...
Soit c'est du raccordement, mais en général, ça coûte cher et il faut que la station d'épuration collective puisse encore accueillir des effluents. Soit c'est l'assainissement non collectif, hein, c'est-à-dire individuel. Et pour ça, il faut que ce soit quand même dans des normes. Et les communes sont chargées de faire ces contrôles et de vérifier que les assainissements sont bien faits.
Oui, ici, par exemple, c'est la communauté de communes qui en a pris la
La
compétence. Donc,
compétence,
du
tout à
coup,
fait.
la clé vient, le SMRD vient travailler aux côtés de la communauté de
C'est
communes,
ça.
les pousse à...
On travaille avec eux, on essaye de voir où ils en sont, et puis on va aussi, parmi d'autres priorités, leur fixer, les priorités en matière de gestion de l'eau. Aujourd'hui, par exemple, on travaille avec eux parce que on s'est rendu compte qu'il y avait encore des habitations qui pouvaient exister, dans des périmètres de protection de captage. Donc, un périmètre de protection de captage, c'est pour l'eau potable. Quand on voit sur des images aériennes qu'il y a des habitations qui peuvent se trouver dans ces périmètres-là, eh ben on se rapproche des SPANC pour voir avec eux si les contrôles ont été faits ou pas, et est-ce qu'on pourrait les prioriser pour essayer de ne pas impacter la ressource en eau pour l'eau potable. Donc c'est des croisements d'usage comme ça qui peuvent être intéressants à mener par la commission locale de l'eau, parce qu'on arrive à croiser un peu les différents usages.
Cette première phase donc de restitution là autour de la qualité et de la quantité, donc il va y avoir comme ça une série de rendez-vous.
Alors, pour la clé, oui, il y aura une série de rendez-vous. Et après, pour les citoyens, le grand rendez-vous, il est le 13 octobre,
Octobre.
si je ne me trompe pas. Donc, il y aura deux journées, le 12 et le 13. Donc, les citoyens sont conviés aux deux. La journée du 12, donc le vendredi, est quand même assez orientée institutionnelle. Donc, ça va être une journée de travail, en fait, de restitution de tout ça aux membres de la clé, mais aussi on a invité très largement toutes les communautés de communes, nos communes, toutes les personnes en fait qui sont impliquées de près ou de loin dans la gestion de l'eau seront conviées, parce qu'en fait depuis le début on se rend compte que les propositions des citoyens ne sont pas forcément toutes liées à l'eau. Donc, on a généré de la participation, on a été à l'écoute des citoyens.
Par exemple.
Ah ben, par exemple, en matière de compétences, le syndicat ne gère pas tout. Il va gérer les milieux aquatiques, mais par exemple, il ne va pas gérer les déchets. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires et de remarques des citoyens sur les déchets tout au long de la rivière. Donc ça, c'est un fait essentiellement lié à l'affluence touristique estivale. Pour autant, le syndicat, il est un peu limité parce que la gestion des déchets, elle se fait par les intercos. Donc du coup, intégrer, travailler avec les communautés de communes qui ont la compétence, déchets, c'est très important parce que s'il faut, remettre aujourd'hui des poubelles en bord de Drôme, c'est pas le syndicat qui va le décider seul puisque c'est pas lui qui fera le
Ni les vider, voilà.
qui les videra, voilà,
Ouais.
c'est ça. Donc c'est un peu tout ça, essayer de d'amener toute cette matière à tous nos partenaires pour que chacun puisse s'en saisir, adapter ce qui existe déjà ou créer de nouveaux projets.
Donc ça, c'était quelque chose de très concret, cette question des déchets.
Oui.
Est-ce que vous avez relevé comme ça deux, trois choses qu'il faudrait absolument régler pour cette rivière Drôme?
Ah ben, ce qui est... Oh là là, comme ça, deux, trois choses sur 800.
Voilà. Non, parce que
C'est
c'est 800
énorme.
choses à régler.
Ah ben, quasiment, hein.
Ah ouais.
Ah mais c'est vraiment très très riche.
Bon, alors lesquelles retiendrais-tu, Christelle?
Hein. La gestion des déchets est beaucoup ressortie. Il y a eu beaucoup de questions sur la gouvernance aussi, qui posent question en matière de gestion de l'eau, c'est-à-dire le citoyen a vraiment envie de travailler à nos côtés, aux côtés des élus. Et puis peut-être ce qui me vient aussi, c'est le bio, on va dire. Tout l'aspect... Ouais, gestion du bio et d'une agriculture, d'une nouvelle agriculture, on va dire. Ça, c'est aussi pas mal ressorti. C'est aussi une demande d'un débat autour de ces questions-là. À la clé, on a beaucoup de représentants agricoles déjà. Et là, on va du coup élargir le cercle de la clé à Agribiodrome. Donc, je pense
C'est pour
que
aller plus loin.
c'est pour aller plus loin, c'est pour échanger maintenant. On a beaucoup échangé avec les irrigants ces dernières années. On voudrait aussi échanger sur les aspects qualité et sur les aspects pratiques en général. Donc,
C'est bien
oui.
entendu ça comme discours, tout au long de cette rivière, justement. La nécessité, en fait, là, on parle de ça, c'est que ces irrigants, enfin, ou les borduriers,
Oui, les riverains,
les
oui.
riverains soient plutôt en bio pour éviter une pollution de la rivière, en fait.
Ben, c'est ce qui est ressorti de la démarche participative et justement pour moi ça nécessite débat parce que aujourd'hui on travaille avec les agriculteurs depuis longtemps, on sait qu'ils ont aussi leurs contraintes, ils ont des filières qui existent, bouger une filière c'est pas facile, faire du tout bio ça sera pas possible non plus. Donc il faut réussir à s'écouter, il faut essayer de voir où c'est possible, pourquoi des fois c'est pas possible. Il faut des... Comment dire? Il faut qu'il y ait des débouchés sur un produit agricole. Donc dans la vallée, s'il n'y a pas assez de débouchés sur ce type de produit, ben ils vont forcément aller vers ce qu'ils peuvent vendre. Donc c'est vraiment une question de fond qu'il faut voir avec eux et travailler avec les agriculteurs, mais aussi avec les filières qui vont autour, quoi.
Donc a priori, un chantier à lancer. On revient sur cette journée du 12. Alors après cette rencontre institutionnelle,
Oui.
malgré tout, les citoyens peuvent y participer.
Oui, ils peuvent participer. Donc c'est sur inscription le 12, parce que comme ce sera des séances de travail, il vaut mieux s'inscrire. Donc soit en ligne, on avait marqué jusqu'au 26, mais c'est toujours ouvert. Donc vous pouvez toujours vous inscrire en ligne sur le site internet du SMRD ou en appelant au syndicat. Et le lendemain, donc le samedi, là, bon, on préfère qu'il y ait une inscription pour savoir un petit peu le nombre de personnes qui seront présentes. Mais là, c'est tout public. Donc, il y aura à la fois une synthèse des restitutions du projet SPAR. Et l'après-midi, on voudrait directement avec les citoyens mettre en œuvre des actions qu'ils ont proposées. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion. Il y a eu plein de demandes, en fait, citoyennes. Au travers SPAR, l'après-midi, ce sera l'occasion d'en proposer aux citoyens qui seront présents. Donc, il y aura par exemple une sortie terrain accompagnée d'experts. Donc, ça se fera l'après-midi. Il y aura le choix avec aussi un débat, puisque autour des questions agricoles, justement, il y a eu une demande citoyenne de mettre les agriculteurs dans le débat et de débattre avec eux. Donc ce sera l'une des possibilités de l'après-midi pour les gens qui seront là. Et puis travailler aussi avec plein d'autres outils. Il y aura des films, il y aura des possibilités de s'exprimer aussi, soit par écrit, soit oralement.
Et ce rendez-vous sera au monastère de Sainte-Croix.
C'est ça, monastère de Sainte-Croix à partir de 9h30.
Il y a des partenaires sur cette opération. On parlait évidemment de l'action menée avec plusieurs pays européens. Localement, au-delà de la clé, du SMRD et tout ça, comment c'est soutenu? Je veux dire, le département aussi mène une action particulière avec vous,
Ah ben oui, le département, il est
la
même
région?
membre du syndicat mixte de la rivière de Rome, hein, donc il participe statutairement, donc à la fois dans les choix politiques et financièrement. Et puis après, notre autre financeur avec le département, c'est l'Agence de l'eau. Donc l'Agence de l'eau, c'est aussi un partenaire très fort pour tous les projets qu'on peut mener. Après, le projet SPAR, il a été uniquement financé par l'Europe. Mais tous nos autres projets sont financés en général département, agence de l'eau. La région, non, c'est fini depuis 2012. La région nous a accompagnés dans toute la dernière révision du SAGE. Donc il y a eu beaucoup de choses menées avec eux. Là, pour l'instant, on a plus de financement région. Mais bon, on regarde les appels à projets et ça reviendra sûrement.
Vous êtes donc invité les 12 et 13 octobre à l'ancien monastère de Sainte-Croix pour cette restitution du Spar. Sur inscription, c'est préférable. Est-ce qu'on a tout dit?
Oui, je pense. J'espère que ça va être un bel et un beau moment de partage avec les citoyens. C'est vrai que je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions parce qu'au bout de 3 ans de projet et 2 ans de participation, on a quand même créé beaucoup de liens avec beaucoup de nos citoyens. Ça a été vraiment une très très belle aventure. Elle continuera parce que avec la révision du SAGE, on reviendra auprès des citoyens régulièrement pour avoir leur soutien, leurs avis et continuer à travailler avec les citoyens. Mais c'est sûr que ce sera sûrement moins intense que ce que l'on vient de vivre. Donc voilà, j'espère que ce sera une belle journée de clôture avec tout le monde.
Là-dessus, d'ailleurs, quel intérêt ça a pour vous de travailler avec les citoyens? C'est les techniciens qui sortent un peu du bois ou, ou l'inverse, une dédramatisation de votre profession?
Non, on sort souvent du bois, on est souvent en contact avec surtout les riverains, mais souvent c'est dans le feu de l'action, c'est dans le projet, c'est déjà dans vraiment un point particulier où on a une interaction avec un citoyen. Là, l'intérêt, c'était de prendre un gros recul avec eux et un grand souffle de nouveauté et d'un autre regard, c'est-à-dire de façon posée, qu'est-ce qu'on a pu aujourd'hui oublier dans tous nos débats de clés et qu'est-ce qui vraiment intéresse le citoyen aujourd'hui? Et ça manquait parce qu'on au quotidien, on n'a pas de représentants de citoyens à la clé, puisqu'il faut être une institution pour siéger au niveau de la commission locale de l'eau. Donc c'est sûr que tout citoyen est représenté à travers son élu, à travers un usage, mais pas en tant que citoyen lui-même. Du coup, ce regard-là nous manquait et on a été quand même globalement bien conforté dans ce que l'on mène comme travaux aujourd'hui et comme orientation. Ça recoupe quand même beaucoup avec ce que l'on fait.
Ah, vous étiez pas déphasé,
On
quoi,
n'était pas complètement déphasé,
hein?
mais ça fait du bien un peu de bouger les lignes, d'avoir ce regard-là, et puis du coup d'apprendre à plus orienter nos actions et nos paroles vers les citoyens.
Cette clé pourra donc peut-être statutairement changer ça?
Ben, il faudrait que ça change au niveau du code de l'environnement, donc
Ah.
ça, moi, je ne sais pas le changer. Par contre, on a ouvert la clé à de nouveaux usages, hein, je le disais tout à l'heure, la grille biodrome, les canaux aussi sont maintenant membres de la clé. Voilà, on a des riverains sur Printemps-de-Garde aussi ont intégré la clé. Voilà, on peut ouvrir à de nouvelles associations tout en respectant l'équilibre des différents collèges élus, usagers, services de l'État. Donc là, on a ouvert déjà un peu plus à de nouveaux usages. Donc ça va permettre d'alimenter nos échanges. Le citoyen lambda, le problème, c'est la représentativité, quoi. qui aujourd'hui pourrait prétendre représenter les 50 000 habitants du bassin versant. Comment on peut faire pour ça? La question reste ouverte, hein. Si on arrive à avoir, je ne sais pas, si une association se monte et nous garantit que ce sera le visage du citoyen du bassin versant de la Drôme, pourquoi pas? Mais comment on fait ça, je ne sais pas. On
C'est
a
un
essayé le
appel.
tirage au sort, hein,
Ah, oui, c'est vrai.
parmi toutes les pistes que l'on a testées pour essayer d'être le plus représentatif possible et essayer de diluer l'intérêt personnel dans une représentativité large de tous les citoyens. On a testé l'invitation au hasard, comme dans les jurés.
Et ça a marché?
Ça va marcher.
Non, bon.
Mais on n'en a pas testé beaucoup. On a fait 10 invitations au hasard. Et bon, c'était peut-être pas assez sur les 50 000 habitants. Mais si on avait un moyen d'avoir un style de juré au hasard, mais un petit peu obligé de venir quand même, je pense que ce serait super intéressant. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce moyen-là.
Eh ben voilà, c'est un appel. Merci Christelle Fermont,
De rien.
directrice du SMRD. Et bonne restitution, en tout cas,
Ben,
les
merci.
12 et 13 octobre.
Merci bien.
Interview. Hey, the bell. Interview.
L'interview du jour.
L'interview du jour.